la diffusion du Theravada à travers l'Asie du Sud-Est, puis vers l'Occident. Alors que le bouddhisme s'établissait dans les divers pays de l'Asie du Sud-Est le long de l'itinéraire du Sud, il dut faire face à différents types de défis. Au Sri Lanka, par exemple, même après qu'il soit devenu la forme officielle de bouddhisme, le Theravada, ou école des anciens, dut affronter la menace de la colonisation européenne. Au début du XVIe siècle, ce furent les Portugais, puis les Hollandais, qui prirent le contrôle de la plus grande partie de l'île. Les Européens considéraient comme de leur devoir de convertir les habitants et de leur faire abandonner leurs croyances païennes. En jouant des coudes, le christianisme finit ainsi par écarter le bouddhisme. Le Theravada ne put recouvrer son ancienne prééminence qu'au XIXe siècle sur cette île. Les deux grandes formes de bouddhisme atteignirent la Birmanie, le Myanmar d'aujourd'hui, entre le 5e et le 6e siècle, et c'est finalement le Theravada qui y prit le dessus. Au 11e siècle, la ville de Pagan, qui était ornée de plusieurs milliers de stupas bouddhiques, dont approximativement 2000 ont survécu aujourd'hui, devint la capitale du premier royaume unifié de Birmanie. Pourtant, avec l'effondrement de ce royaume, le bouddhisme déclina pour ne retrouver sa prééminence qu'au XIXe siècle. De nos jours, le bouddhisme et d'autres institutions libres luttent pour leur survie face au régime répressif en place au Myanmar. Cette lutte non violente est menée en partie par Aung San Suu Kyi, une bouddhiste laïque qui a accédé à la renommée internationale par l'obtention du prix Nobel de la paix en 1991. Dans toute la péninsule indochinoise, les guerres et les répressions qui furent menées par les gouvernements respectifs affaiblirent aussi sévèrement les diverses formes de bouddhisme qui y avaient fleuri au cours des siècles précédents. Bien que le Laos et le Cambodge, Kampuchea, aient été des centres Theravada actifs par le passé, le bouddhisme qui a survécu à la suite de la prise du pouvoir des communistes des années 1970 a perdu beaucoup de son ancienne vitalité. On peut probablement en dire autant pour le Vietnam, où c'est le zen qui a prévalu par le passé. En Thaïlande, il en a été autrement. Le bouddhisme arriva dans ce pays vers le IIIe siècle, et au XIVe siècle, des moines vinrent du Sri Lanka pour revitaliser la tradition Theravada de Thaïlande. Aujourd'hui, la Thaïlande est connue dans le monde entier pour ses temples opulents et ses statues dorées. Et pour les moines en robe safran, jaune-orangé, qui marchent dans les rues de ces grandes villes afin de recevoir les offrandes des disciples laïcs. Le bouddhisme imprègne la culture thaïlandaise moderne. Voici des exemples de la présence largement répandue du bouddhisme dans cette société. Selon la Constitution, le roi doit être un bouddhiste. Les vertus bouddhiques comme la bonté et la retenue sont largement observées et respectées. Les rapports entre les communautés laïques et monastiques sont particulièrement étroits et les moines du Sangha peuvent toujours compter sur les laïcs pour qu'ils leur fournissent de la nourriture, des vêtements et tout autre soutien dont ils peuvent avoir besoin. La coutume veut encore que chaque laïc, homme, passe plusieurs mois au moins à vivre selon les règles de la discipline monastique en portant ainsi les robes d'un moine. Comme dans de nombreux autres pays bouddhistes, une bonne partie de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la pratique bouddhique en Thaïlande est plutôt superficielle. Certains membres de la communauté monastique ont donc réagi en se retirant dans la solitude de la jungle pour faire revivre les pratiques d'origine des bouddhistes des forêts en Inde. Au lieu d'adopter le rôle familier, semblable à celui d'un prêtre, de nombreux moines citadins, qui officient entre autres au nom des laïcs lors des cérémonies religieuses, ont adopté un style de vie aussi simple et empreint de renoncement que possible, et ils sont revenus aux sources de leur foi. Écoutez la biographie d'Ajahn Chah au chapitre 15. Refusant de se limiter à traiter le Theravada comme une simple religion institutionnalisée, il se consacre aussi intensément que possible à la pratique de la méditation. Leur objectif n'est rien de moins que l'émancipation complète de toutes les formes de limitations créées par le mental, c'est-à-dire la vraie libération de la souffrance. La tradition de la vie en forêt en Thaïlande et en Birmanie voisine eut un impact majeur sur la scène spirituelle occidentale. Au début des années 1960, une poignée, puis un nombre significatif d'Occidentaux, se mirent en route vers l'Orient à la recherche de cette ancienne sagesse, ou du moins à la recherche d'une alternative à la culture matérialiste dans laquelle ils avaient grandi. Bien que les drogues et les autres distractions présentes sur les routes empruntées par les hippies vers l'Inde et au-delà aient détourné nombre de ces voyageurs de leur quête initiale, certains parvinrent quand même à trouver ce qu'ils avaient cherché. Au cours des années 1970, plusieurs de ces pionniers qui avaient étudié avec des maîtres Theravada en Asie du Sud-Est rentrèrent en Occident et commencèrent à partager avec d'autres ce qu'ils avaient appris, à fonder des centres qui amenèrent les anciennes pratiques du Theravada en Amérique du Nord. Le pionnier sans doute le plus connu est Jack Kornfield, un auteur et instructeur de méditation qui a participé à l'introduction en Occident des techniques de méditation de maîtres comme Ajahn Chah, l'une des principales figures à l'origine du renouveau de la tradition de la méditation en forêt en Thaïlande.
La concentration sur le souffle. La respiration constitue un objet de méditation particulièrement approprié. Contrairement à d'autres objets qui nécessitent des efforts considérables à créer et à soutenir, comme la visualisation d'une image du Bouddha, la respiration, elle, est en permanence disponible sous votre nez. Elle attend juste qu'on l'observe. En outre, vous en apprendrez beaucoup sur votre état d'esprit en ne faisant qu'observer votre souffle. Par exemple, une respiration inégale reflète souvent l'agitation mentale, alors que lorsque l'esprit se calme, la respiration fait de même. En fait, lors de la méditation, certains adeptes sont si calmes et si concentrés que leur respiration semble s'être complètement arrêtée. Ressentir pour la première fois ce calme extraordinaire, cela peut surprendre. Pendant un moment, vous vous demanderez même peut-être si vous venez de mourir. Mais bien sûr, ce ne sera pas le cas. Du moins, tant que vous serez en train d'écouter ce livre. Votre respiration deviendra seulement bien plus subtile que ce à quoi vous êtes habitué. Lorsque votre mental sera suffisamment calme et concentré, dirigez alors votre attention sur les sensations, les sentiments et les pensées divers qui surgissent et retombent sans cesse dans votre corps et votre esprit. Écoutez le chapitre 7 pour en savoir davantage sur cette méditation de l'attention. Votre tâche n'est pas de juger, ni de comparer, ni de vous engager dans ces expériences, mais simplement de les observer. Quelque chose surgit et sans vous accrocher à ce qui est plaisant ni à ce qui est déplaisant, vous constatez simplement l'expérience. Cette technique de méditation semble défier le bon sens, tellement elle est simple. Au lieu de vous laisser distraire par le bavardage continuel de votre mental, vous affrontez directement votre monologue intérieur en changement constant. Lorsque vous commencerez à vous ennuyer ou à être frustré, ou lorsque le monologue intérieur prendra le dessus, vous le constaterez aussi. En devenant de plus en plus attentif à ce qui se passe à chaque instant, vous avez la possibilité de parvenir à une conscience de la manière dont les choses existent vraiment, libre de toute projection mentale.
Kornfield, avec ses collègues pionniers Joseph Goldstein, Sharon Salzberg et Christina Feldman, fonda l'Insight Meditation Society, cercle de méditation de la vision profonde, à Barr, dans le Massachusetts, en 1975. Depuis, des chercheurs spirituels ont ainsi accès à l'instruction sur la méditation bouddhique sans avoir à faire le difficile voyage en Asie. Ils n'ont qu'à se rendre dans l'Est des États-Unis. Des années plus tard, Kornfield cofonda aussi le Spirit Rock Meditation Center en Californie. N'oubliez pas, la principale pratique enseignée à l'IMS et dans des centres comparables dans le monde entier est appelée méditation vipassana, méditation de la vision profonde. Le vipassana provient et est adapté de l'enseignement Theravada d'Ajahn Chah et d'autres maîtres du bouddhisme des forêts de Thaïlande ou de l'enseignement de maîtres birmans comme Mahasi Sayadaw et Uba Khin, et de l'un de ses premiers disciples, S.N. Gonka, qui ont été les fers de lance du renouveau des pratiques Theravada dans leurs pays respectifs. Tel qu'enseigné dans ces centres, la formation à la méditation vipassana commence généralement par l'apaisement du mental et la focalisation de l'attention sur le mouvement rythmique de la respiration. Pour en savoir plus, écoutez le passage « La concentration sur le souffle » plus haut dans ce chapitre. Lorsque le mental est suffisamment concentré, grâce à cette technique ou à une technique semblable, cette forme de méditation permet de faire l'expérience du vipassana, une vision directe et libératrice de la nature transitoire, insatisfaisante et sans soi de l'existence ordinaire. Écoutez les chapitres 2 et 17 pour en savoir plus sur ces trois caractéristiques de l'existence ordinaire. Les retraites vipassana durent entre 10 jours et 3 mois et elles sont conduites dans un silence complet, sauf lorsque le guide de méditation donne ses instructions. Outre les techniques de développement de la concentration et de la pénétration, les centres comme l'IMS proposent des formations aux autres pratiques clés du bouddhisme. La méditation metta, ce terme pali peut se traduire par bonté, amour universel, bienveillance, est particulièrement populaire et largement enseignée, à la fois séparément et comme partie intégrante des programmes de retraite vipassana. Nombre de ces centres proposent aussi des formes d'instruction ne provenant pas de la tradition Theravada, voire extérieure au bouddhisme. On peut y suivre des cours donnés par des lamas tibétains, des roshis japonais, des prêtres chrétiens, des chamans amérindiens et d'autres instructeurs spirituels. Le résultat, c'est qu'une tradition éclectique semble émerger. Tirant son inspiration de diverses sources, elle peut en retour rendre divers services spirituels à la collectivité.